Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épontre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sandra Laugier et Najat Vallaud-Belkacem.
Il n'y a que d'un point de vue féministe que l'on peut comprendre que ce travail est dévalorisé parce qu'il est assigné aux femmes qui elles-mêmes sont historiquement assignées au domicile avec des tâches domestiques qui sont assurées gratuitement.
L'autre jour, quelqu'un m'a dit que la poudre était moins sexy depuis que je recevais plus de savanteux et moins d'artistes. Ça m'a même pas énervée, parce que c'est pas vrai. Je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant, de plus désirable que la pensée féministe. Personnellement, je ressens des frissons d'extase quand on me donne un mot pour nommer une intuition, quand on me déroule une logique qui me fait voir les choses sous un jour nouveau. L'une des notions théoriques qui m'a donné la plus grande jouissance ces dernières années, c'est celle de care. On la croise à peu près partout où l'on essaye de penser le genre. Pour vous en parler, je vous ai chopé LA chercheuse du care en France, Sandra Laugier. Il y en a deux, trois autres que je cite dans l'épisode. Elle a coécrit avec Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre, un petit livre captivant, La société des vulnérables. On s'est parlé un soir d'hiver sur Zoom, et vous étiez là, et on s'est donné chaud avec de l'amour et des idées. Et je vous promets, c'était super sexy. Avec Sandra Laugier et Najat Vallaud-Belkacem, on a parlé de vulnérabilité, d'interdépendance et de soins.
Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver si nombreuses et nombreux pour cette nouvelle rencontre Zoom. On est en train de s'habituer. Hein. Je suis vraiment très excitée aussi de pouvoir aborder un sujet central pour la pensée féministe et pour l'avenir que nous souhaitons voir se construire. Un sujet qui me passionne depuis longtemps. Ce sujet, c'est le care. Alors oui, on dit « care », c'est un anglicisme nécessaire, parce qu'on ne peut pas se contenter de traduire ce mot par « soin ». En disant « care », on parle aussi de l'attention qu'on porte aux autres, on parle de ce qui importe, on parle de ce qui est important à nos yeux. Cette notion, on la doit à une psychologue américaine, Carol Gilligan, qui l'a employée pour la première fois en 82 dans un ouvrage intitulé « Une voix différente ». Et elle est portée en France depuis plus de 10 ans par une philosophe, professeure à l'université Paris 1 Sorbonne Nouvelle, Sandra Laugier, que je suis vraiment honorée de recevoir ce soir. Bienvenue Sandra.
Merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
Et je suis tout aussi honorée de recevoir pour la deuxième fois dans la poudre Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale France de l'ONG One, ancienne ministre des droits des femmes et de l'éducation. Bienvenue Madame la ministre.
Merci beaucoup.
Alors, si vous êtes là toutes les deux, c'est pour parler de ce petit livre tract que vous avez publié conjointement, La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise. Vous y faites le constat, en vous appuyant sur la pensée du care, d'un double mouvement pendant la crise sanitaire déclenchée par la pandémie. D'un côté, des femmes massivement en première ligne dans ces métiers du care, aide-soignante, aide à domicile, personnel d'entretien, personnel des EHPAD, mais aussi dans les foyers auprès des enfants. Et de l'autre, invisibilité accrue des femmes dans les médias et parmi les décideurs et décideuses politiques. C'est un pamphlet direct, efficace, mais dans lequel on ressent une déception, même une inquiétude. Et je voulais savoir si la volonté de l'écrire était partie de cette déception, voire même d'une forme de colère qu'on sent parfois poindre. Je ne sais pas laquelle de vous deux a envie de commencer. Peut-être Sandra, je vous vois hocher la tête.
Oui, mais Najat aurait aussi bien pu commencer, puisque c'est vraiment suite à une conversation que nous avons eue pendant le premier confinement, puisque maintenant on les numérote, et où on s'est aperçu que la place des femmes était apparemment reconnue, on ne parlait que d'elles, on disait les pauvres, elles fabriquent des masques, elles s'occupent de la société, donc il y avait vraiment une forme de, voilà, de reconnaissance et de visibilité soudaine. Des femmes, par exemple des caissières, que tout le monde commençait à remercier, les soignants qu'on applaudissait, etc. Donc apparemment, peut-être un début de reconnaissance de tout ce monde, en fait, qui travaille pour nous. Mais en même temps, on avait une très forte déception tout de suite. Et vous avez raison, Najat, ça vous le dira aussi, c'était vraiment de la colère, de la rage même qui transparaît, je pense, par moment, puisque finalement, cette prise de conscience n'aboutissait à rien de concret et même parfois nous donnait l'impression de se retourner. C'est-à-dire que plus ces femmes étaient visibles et plus on voulait les mettre sous le tapis. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très paradoxal qui nous a choqués. Après, pour moi, c'est vrai que c'était extrêmement positif d'entendre parler du Caire tout le temps. C'est la première fois même qu'un ministre avait prononcé le nom, sauf qu'il prononçait le mot en faisant comme si c'était une invention anglo-saxonne qui n'avait jamais atteint la France avant qu'il en parle. Hein. Mais c'est vrai que voilà, c'était une forme de reconnaissance. Et je voulais vous dire que ce mot Caire, en effet, on emploie le mot anglais parce que c'est donc l'attention, mais c'est aussi parce que c'est un mot qui correspond à un travail. Et donc, ce qui était extraordinaire dans la reconnaissance qu'il y a eu au début du confinement, c'est qu'on avait une sorte de compréhension de la continuité qu'il y avait à l'intérieur de toutes les activités de Caire, que ce soit le Caire en hôpital, les soignants, etc. Et puis, justement, jusqu'aux caissières, jusqu'aux livreurs, des hommes aussi qui assuraient un travail de Caire. Donc, il y avait la reconnaissance de cette double dimension affective et de travail dans le Caire, qui apparaissait en fait, voilà, sous nos yeux, et puis également cette continuité de toutes les activités de Caire qui en fait sont vraiment complètement séparées, disjointes en temps normal, ce qui fait qu'on ne les voit pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une double dimension. Il y a la première dimension qui vient d'être exposée par Sandra, et j'y reviendrai pas, mais disons qu'on pourrait résumer en disant que finalement, ce qui était très irritant, c'est que pendant cette crise, on s'est rendu compte qu'il existait des métiers absolument indispensables à notre bien-être collectif, que sont les métiers du Caire, comme elle vient de les décrire, que ces métiers du Caire étaient pour l'essentiel 70%, voire 80% occupés par des femmes, que cela aurait dû nous conduire collectivement à vouloir entendre la voix des femmes, puisque finalement elles jouaient un rôle si important et si singulier, etc. Et qu'en fait, bien au contraire, on les a encore moins entendues que par le passé, ni dans l'expertise, ni dans le commentaire, ni dans la gestion de crise. Donc ça, c'est la première dimension très choquante s'agissant des femmes. Puis la deuxième dimension encore plus flagrante, ça a été que très vite, on s'est rendu compte que partout dans le monde, les premières victimes de cette crise du Covid-19 et des décisions politiques qui s'en sont ensuivies, de confinement en particulier, qui était sans doute légitime, on ne remet pas ça en cause, mais enfin, les premières victimes, quand même, ça a été les femmes. La situation des femmes s'est dégradée à un point, mais vraiment considérable à travers le monde, au point que certaines analyses aujourd'hui, qui sortent bien tard à notre goût, parce qu'en fait, on en prenait conscience en plein cœur du premier confinement, certaines analyses aujourd'hui vous disent on est en train de perdre 25 ans de progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes en un an de pandémie Covid et de ses conséquences. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la pandémie Covid, ce n'est pas simplement le fait d'être infecté par la maladie, c'est évidemment la crise économique considérable, l'extrême pauvreté qui s'abat sur énormément de gens, essentiellement des femmes, toutes les réorganisations l'organisation sociale liée au télétravail, à la charge domestique qui rebascule comme d'habitude totalement sur les épaules des femmes. Enfin bref, un chiffre pour résumer tout cela, les femmes ont 2 fois plus de risques d'avoir perdu leur emploi que les hommes depuis le début de la crise Covid. Donc, vous voyez, c'est à la fois l'espèce d'hypocrisie autour de la valorisation des métiers du care et notre incapacité à donner la parole à celles qui l'incarnent, et en même temps la dégradation considérable de la situation des femmes partout dans le monde, sans que ce soit accueilli par une prise de conscience, par des chiffres et des données pour objectiver ce qui est en train de se passer, par des réponses dans les plans de relance. Voilà, c'est tous ces angles morts qui nous paraissent insupportables.
Oui, effectivement, il y a énormément de signaux qui sont allumés au rouge. À ceux que vous venez d'énumérer, Najat, on pourrait rajouter aussi le recul du droit à l'avortement. Hein. On sait qu'il y a vraiment beaucoup plus de femmes qui ont dû avorter en urgence, et évidemment la montée des violences. Enfin, tous les signaux concernant le bien-être des femmes se sont vraiment tous mis au rouge. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement cette notion de care qui vient de la psychologie, mais qui on retrouve aussi en sociologie, en philosophie, c'est profondément une notion féministe, en fait. C'est une notion même antipatriarcale. Et je trouve que le sous-titre de votre livre, La leçon féministe d'une crise, le rappelle de façon très juste. Donc, est-ce que c'est un programme politique féministe que vous proposez à travers cet ouvrage ?
Totalement. C'est vrai qu'on tenait beaucoup à ce sous-titre, hein, et à ce qui est féministe dans l'intitulé, puisque, et leçon, hein, puisque cette crise donc du Covid a appris beaucoup de choses, hein, à tout le monde, hein, c'est clair. Elle a fait comprendre finalement, ben, d'une part, que on a une vulnérabilité qui est partagée, hein, donc chacun s'est senti vulnérable face à cette menace, hein, du virus. Chacun s'est senti aussi dépendant, en fait, de toutes sortes de gens voilà, qui s'occupent d'elle ou de lui d'habitude. Donc c'est vraiment d'abord une leçon de vulnérabilité, de dépendance, mais la leçon, elle peut vraiment aller plus loin, et c'est ça qu'on fait dans ce livre, hein. C'est vraiment de pousser cela jusqu'au bout. La vulnérabilité, d'accord, tout le monde s'est senti vulnérable, et les hommes étaient frappés plus que les femmes par la maladie directement, même si les femmes, au plan social, sont très largement les victimes. Et donc, on avait cette vulnérabilité qui avait l'air générale. Bah, par exemple, même Trump, voilà, d'autres sont tombés malades, bien fait pour eux. Mais en tout cas, on voyait aussi que cette vulnérabilité, même si elle est générale, elle n'est pas du tout également partagée. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, et en particulier les personnes qui s'occupent des autres, finalement. C'est-à-dire qu'il y avait une vulnérabilité de ceux qui s'occupaient de notre vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment une première leçon du care, hein, cette vulnérabilité et cette dépendance. Et ben, en réalité, on s'est aperçu que les personnes qui ont l'air le plus autonomes, donc par exemple l'homme d'affaires qui se balade de pays en pays, ou même la femme qui est hyperactive, etc., sont eux-mêmes, sous des airs de grande autonomie, sont dépendants, hein, sont vraiment, en réalité, ont cette autonomie grâce à l'aide, hein, ça se soutient, que plein de gens apportent à cette autonomie. Alors, pourquoi c'est une leçon de féminisme ? Eh bien, parce que, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a donc cette vulnérabilité, mais que, en réalité, les femmes, et notamment les femmes aussi racisées, les femmes pauvres, donc sont plus vulnérables, hein, que les autres, et d'autre part, que cette autonomie, y compris de certaines femmes, elle est gagner finalement sur le terrain d'autres, hein. On n'a pas mis les hommes au travail à l'aide donc du travail domestique, etc. Donc c'est vrai que là on a vraiment une sorte de prise de conscience, hein, d'enjeux du féminisme qui sont assez complexes, mais surtout depuis qu'on a sorti ce livre et voilà qu'on discute avec des gens, souvent ils nous disent mais en fait, j'ai compris pourquoi tous ces boulots sont super mal payés. Parce que c'est vrai que c'est la première question. On va dire, comment ça se fait que le travail le plus important, par exemple, les gens qui s'occupent de vos parents ou de vos enfants, ils devraient être les plus importants du monde. Ils le sont, hein, d'ailleurs, assez pour vous, mais en fait, on considère que c'est rien, ils sont les moins importants. Donc, cette question-là, en réalité, elle a l'air d'être une question banale, sociale, elle a une réponse féministe, en fait. Il n'y a que d'un point de vue féministe que l'on peut comprendre que ce travail est dévalorisé parce qu'il est assigné aux femmes qui elles-mêmes sont historiquement assignées au domicile avec des tâches domestiques qui sont assurées gratuitement. Et s'il n'y avait pas cette gratuité, en fait, du travail de care, du travail domestique au départ, on n'aurait pas, en fait, cette cascade de conséquences sociales qui est donc ces salaires extrêmement bas, le manque de considération, etc. Et c'est pour ça que toutes les solutions consistent à dire « Ah ben, on va revaloriser telle ou telle catégorie », si elles ne permettent pas, en réalité, de comprendre en fait les causes. Hein. Donc, finalement, si on passe pas de la première vague à la deuxième vague du féminisme, en fait, hein, ça, on n'arrive pas, on ne pourra rien faire en fait contre cette inégalité qui apparaît en fait heureusement aux yeux de tous en ce moment. Mmh.
Ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans votre livre, c'est la collaboration entre une personnalité politique et une chercheuse. Je trouve que, enfin, moi, je m'évertue à montrer les ponts qu'il y a entre la pensée, entre la théorie et l'action politique. Et je voulais me tourner vers vous, Najat, parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, ce mot care, il est apparu subitement pendant le premier confinement. L'organisme créé par Emmanuel Macron pendant la crise a été baptisé care pour Comité d'analyse, de recherche et d'expertise, ce qui est un tout petit peu ironique, hein, je trouve, mais bon. On l'a aussi entendu dans la bouche d'Olivier Véran, et on voit qu'il y a vraiment un chemin qui a été parcouru depuis 2010, parce que je pense que, si je ne me trompe pas, la première personnalité politique à l'avoir employée dans les médias, c'est Martine Aubry, en 2010. À l'époque, elle avait été presque raillée. Quelle vision vous avez, vous qui connaissez bien le monde politique, Najat, de l'évolution de la perception du care? Est-ce que c'est de l'opportunisme, ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a eu lieu?
Avant de vous répondre, peut-être juste un commentaire sur notre collaboration avec Sandra, parce que je pense que la raison pour laquelle ça a très très bien marché, et pour laquelle de manière générale on s'entend très bien, c'est que notre rapport à notre cœur de métier, entre guillemets, se ressemble. C'est-à-dire que Sandra est une philosophe, mais sa spécialité, c'est, enfin, elle en parlerait mieux que moi, mais c'est une philosophe du langage de l'ordinaire. Donc, en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle travaille beaucoup, par exemple, sur les séries télévisées, etc. Donc, cette appétence qu'elle a pour rentrer dans la vie des gens et pas simplement être dans la théorie, les grands principes, etc. Et moi, de mon côté, je suis une femme politique, mais je suis une femme politique éminemment convaincue que le privé est politique. Pour reprendre le très beau slogan des féministes des années 70, c'est-à-dire que, en effet, Sandra a parfaitement raison dans ce qu'elle a dit tout à l'heure, ce qui se joue dans le foyer, dans le privé, impacte considérablement ce qui se passe dans l'espace public, dans le milieu du travail, etc. Et évidemment que la question de la charge de travail domestique qui pèse d'abord et avant tout sur les épaules des femmes est cette réalité-là, les trois quarts de la charge domestique sont pris en charge par les femmes, c'est accru pendant le confinement, hein, de 30%, disent aujourd'hui quelques études, donc ça a été encore plus vrai. Donc la charge domestique qui pèse sur les femmes, la difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle, etc., explique énormément des écarts de salaire finaux qu'on trouve entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, ou du non-accès des responsabilités aux responsabilités des femmes, etc. Donc il y a un lien très direct entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans la sphère publique. Mais pour revenir à votre question sur le care, en fait c'est bien ça le problème, c'est qu'en effet, comme ce sont les femmes qui prennent en charge cette dimension domestique, que cette dimension domestique a toujours été considérée comme quelque chose qui devait être fait à titre gratuit, c'est par générosité, bien sûr, par altruisme, qu'on s'occupe des enfants, qu'on prépare à manger, etc., etc. Du coup, tous les métiers qui ressemblent à cela semblent être une extension du champ domestique, et en fait, communément, chacun trouve ça normal de les sous-payer, de les non-valoriser, etc. Vous l'avez dit, la notion de care est apparue dans le paysage politique français lorsque Martine Aubry, en particulier, dans les années 2000, a voulu se l'approprier totalement. Il faut se souvenir avec quelle goguenardise ces déclarations sur le sujet ont été accueillies, sur le mode mémérisation de la politique, etc., etc. C'était insupportable, j'en ai encore un souvenir franchement cuisant. Et ce qui me frappe, moi, c'est déjà que dès lors que c'est un homme, Olivier Véran, qui remet ce sujet au centre du débat politique, on a un peu moins ce genre de réaction. Comme si le fait que ce soit un homme qui en parle, il est un peu moins suspect d'être dans des trucs pas importants, négligeables, etc. Dès que c'est une femme, vous avez ce procès qui est accolé. Deuxièmement, on pourrait considérer qu'au-delà de ce premier commentaire que j'ai fait, le temps était quand même venu de toute façon d'imposer le terme de care cette fois-ci définitivement parce que les gens s'en rendaient compte par eux-mêmes en applaudissant le soir à leur fenêtre les personnels soignants ou les caissières, et ils comprenaient bien de quoi on parlait à travers ces métiers du soin, de l'attention, etc. Mais ce qui est absolument frappant, c'est que quand vous voyez la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement, il a beau avoir employé le terme de CARE et donné cet acronyme, il n'y a eu que de la rhétorique guerrière dans la gestion de cette crise. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on essaye de dessiner avec Sandra dans le livre, c'est que la rhétorique guerrière, c'est l'exact inverse de l'éthique du CARE. La rhétorique guerrière, c'est celle qui vous dit « Bon, moi, je suis sûre de mon fait, je vais gérer cette crise de façon autoritaire, en assénant des choses, y compris quand elles sont fausses, il n'y a pas besoin de porter de masque, etc. Mais je les assène. » Vous voyez, il y a quasi une dimension patriarcale dans tout ça. A contrario, l'éthique du CARE, elle est en effet bien plus féministe, c'est le contraire du patriarcat, en quelque sorte, en cela que confère ce qui se passe avec Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, la gestion de la crise va davantage être tournée vers la responsabilisation des citoyens. Il vaut mieux expliquer aux citoyens que c'est bien s'ils fabriquent des masques à domicile plutôt que leur dire qu'il n'y en a pas besoin, y compris quand les deux pays n'en avaient pas suffisamment. Mais enfin, ce rapport aux citoyens, cette volonté de systématiquement penser aux plus vulnérables et de ne négliger aucune de ces vulnérabilités. A contrario, en France, on a commis quand même pas mal d'erreurs en se rendant compte avec beaucoup de retard de la montée des violences faites aux femmes, de la situation des plus pauvres, des files alimentaires qui s'allongeaient, de la situation des étudiants qu'on avait complètement oubliés dans leur chambre universitaire. Enfin, vous voyez, donc en fait, la rhétorique de la guerre a empêché de prendre en charge un certain nombre de choses que l'éthique du CARE aurait évidemment embrassé d'office. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit aujourd'hui, on a besoin d'une éthique du CARE à la tête des États et dans la gouvernance, parce que les défis qui nous attendent, pas seulement la pandémie Covid, mais aussi par exemple le changement climatique, ils vont avoir besoin de ce type de réponse-là. Or, l'éthique du CARE aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, elle est plus portée par des femmes. Et c'est en cela que c'est une éthique féministe. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera ad vitam aeternam. Il y a sans doute des hommes qui s'y reconnaîtront, qui se l'approprieront, qui l'aimeront, mais culturellement, nous avons été élevés dans le fait, pour les filles et les femmes, d'accorder plus d'importance à la coopération, aux soucis de l'autre, à l'attention aux plus faibles, etc. Et pour les garçons et les hommes, d'être davantage dans cette compétition et cette virilité qui rejoint parfois la rhétorique de la guerre. Voilà ce que nous cherchons à dire par l'éthique féministe.
Effectivement, et je voudrais bien qu'on y revienne tout à l'heure, il y a cette espèce de petite tentation essentialiste qu'on va devoir écarter tranquillement, on va prendre le temps de le faire. J'aurais quand même rebondir parce que en vous écoutant, je me dis c'est une éthique féministe aussi parce que c'est aussi une remise en question de la production des savoirs. Et quand on s'interroge sur l'émergence de cette notion dans le domaine universitaire, je voulais citer votre travail, Sandra Logier, mais vous avez des consoeurs avec lesquels vous travaillez régulièrement, comme Pascal Molinier ou Patricia Paperman, qui ont vraiment travailler à importer cette notion en France dans le milieu universitaire, dans la douleur. Ça a été très, très compliqué. Ça a pris 20 ans, 30 ans même de faire accepter cette réflexion sur les vulnérabilités, sur les travails de soins dans une université française qui est quand même très axée sur les lumières et donc sur la rationalité, l'autonomie. J'aimerais bien, Sandra Logier, si vous voulez bien, que vous nous parliez un peu de ce contexte français qui fait que c'est si difficile de penser avec ces lunettes-là, ces lunettes féministes-là.
Oui, donc c'est un thème qui n'a pas été facile d'imposer dans le champ intellectuel d'abord, hein, puisqu'on a commencé à travailler au début des années 2000 ensemble, en découvrant, d'une part, c'était la découverte du travail de Carol Gilligan, qui datait déjà des années 80, qui avait été traduit en français en 86, mais ce qui était intéressant, donc le livre « Une voix différente », c'est qu'il avait été traduit tout de suite parce que c'était un énorme best-seller aux États-Unis, mais en France, ça avait fait un flop total et donc l'éditeur était vraiment rentré sous terre avec son livre. Le livre s'appelait « Une voix différente » et ça avait été traduit en français « Une si grande différence ». Ça touche à la question de l'essentialisme que vous mentionniez. Donc, dès qu'on parle en fait d'une grande différence et d'une différence entre donc, les femmes et les hommes, eh bien, justement, il y a ce soupçon de l'essentialisme et on va toucher à l'universalisme, aux libertés, etc. Et du coup, c'est fini. Je crois que là, ça a été aussi une leçon hein, pour nous d'avoir vu cet accueil de ce livre. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment consolider donc, la présentation du CAIR avec Pascal Molinier, qui est psychologue, Patricia Paperman, une sociologue qui avait travaillé sur la sociologie des émotions avec Boltanski, et moi qui travaillais dans le domaine d'une éthique, mais qui ne soit pas l'éthique conventionnelle du bien et du mal, mais une éthique de l'attention aux particularités des gens, des situations. Donc, tout cela, ça, voilà, ça a vraiment donné en fait vraiment un grand nombre de travaux pour promouvoir l'éthique du CAIR, pour l'expliquer, et c'est vrai que ça a vraiment donné lieu aussi à beaucoup de travaux de jeunes, hein, de jeunes chercheurs qui ont adhéré à ce domaine de recherche. Donc, il y en avait vraiment besoin, puisque c'est en fait un domaine, il faut s'en rendre compte, qui était aussi méprisé par la sociologie, par la science politique, et bien sûr par la philosophie, puisque la philosophie s'intéresser à l'éthique guerrière, viriliste, en tout cas une éthique de la décision, une éthique qui allait vraiment être sur le choix du bien et du mal, et pas du tout à cette éthique de l'attention aux situations particulières. Donc chacune défendait une voie de pensée VOIE, mais aussi une voie différente dans son domaine, qui à chaque fois était subversive, hein, puisque elle parlait d'un domaine qui était en effet sous-évalué, y compris un domaine de la pensée. Hein, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas en philosophie à la vie ordinaire. Il y a toujours l'idée qu'il faut dépasser cette vie ordinaire pour passer aux choses sérieuses, donc sortir de la caverne, etc. Il y a un mépris de la vie domestique, y compris chez certaines penseuses féministe. Hein. Donc, en fait, on touche vraiment là à des divisions fondamentales du monde intellectuel, mais bien sûr, c'est cela qui nous intéressait. Alors, bien sûr, d'emblée, il y a eu ce soupçon de l'essentialisme, et je crois que maintenant, la question est malgré tout réglée, hein, puisqu'on s'est bien aperçu au fil des années qu'il y a des questions qui concernent particulièrement les femmes, il y a des injustices qui se concernent les femmes. Et en réalité, en France, dès qu'on parle d'une spécificité des femmes, par exemple, le fait que les femmes aient été, en effet, réduites à l'espace domestique et que leurs tâches ne soient pas rémunérées, etc., ça concerne quand même les femmes. Donc, en réalité, ce qu'on appelle essentialisme, c'est tout simplement du réalisme, hein, c'est la description de la situation qui est faite aux femmes. Et je crois que le fait que d'emblée, dès qu'on a un discours vraiment féministe, on se fait accuser d'essentialiste, c'est aussi quelque chose qui est un peu qui est spécifique à la France, hein, je pense. Et c'est aussi un pays où on a beaucoup de mal en fait à imposer les idées féministes parce que il y a cette domination d'un universalisme dont on entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs, hein, mais cet universalisme, Najat et moi, on est à fond pour l'universalisme. Bien sûr qu'on veut que les femmes et les hommes vivent dans les mêmes conditions, mais cet universalisme, eh bien, c'est quelque chose à quoi on aspire. On va pas dire ah ben l'universel il est déjà là, donc on va affirmer aucune différence en fait. Donc je crois que c'est vraiment là on touche en fait à des débats internes au féminisme aussi, hein, qui sont assez vifs en France, hein, autour de cette question-là, et on touche aussi un certain nombre de tabous, enfin en tout cas peut-être pas des tabous puisqu'on en parle pas mal, mais des divergences interne au féminisme, hein, puisque on touche au fait que, comme le disait Najat, les tâches ménagères n'ont pas disparu avec l'accès des femmes au marché du travail, hein, mais elles ont été déléguées à d'autres personnes. Hein, elles n'ont pas été partagées. Hein, on sait qu'il y a très peu de progrès. C'est vrai qu'on est dans un univers où il y a des inégalités entre femmes, des femmes qui travaillent pour d'autres femmes, et en particulier au niveau global aussi, des femmes qui quittent leur pays pour travailler donc dans les pays du Nord, les pays riches, pour prendre soin en fait des enfants ou des personnes âgées. Et ça aussi, hein, il y a des inégalités globales et il y a aussi des inégalités entre femmes.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, qui me semble tellement juste et qu'on a entendu dans La Poudre récemment, dans la bouche de Mam Fatou Niang, qui rejette cette idée que militer contre le racisme, ce serait diviser, alors qu'évidemment qu'elle aussi, elle souhaite une société universaliste. Elle aussi, elle voudrait qu'on ne voit plus les couleurs, mais simplement, il faut peut-être commencer aussi par voir ce qui se passe et analyser et avoir des statistiques. Et ça me permet d'ailleurs de glisser vers la question suivante que je voulais vous poser, c'est que les corps des femmes ont été en première ligne pendant la crise, mais on sait que c'est aussi les corps racisés qui ont été les plus touchés par la pandémie. Les fonctions notamment de ménage, de nettoyage sont occupées de façon écrasante par des femmes, mais aussi par des hommes non blancs, dont les vécus et les douleurs physiques sont particulièrement silenciés. On n'entend jamais. Alors heureusement, les mobilisations des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles récemment ont permis de faire émerger un tout petit peu médiatiquement le vécu physique dans leur chair, de ce que signifie manipuler au quotidien des produits chimiques, se baisser 100 fois par jour pour ramasser des choses par terre, etc. Mais on commence simplement à prendre un peu conscience du vécu de ces personnes qui sont complètement invisibles. Et j'ai aussi trouvé dans un texte que vous avez publié, Sandra, des chiffres concernant le taux de mortalité du Covid. Il y a 2 fois plus de mortalité en France pour les personnes nées à l'étranger. On n'a pas de statistiques ethniques en France, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc la question que je voulais vous poser ensuite, c'est comment articuler la lutte contre le racisme et la pensée du CAIR. Peut-être que je vais vous redonner la parole, Najat, sur le plan politique. Comment on peut penser ça?
D'abord, peut-être pour rebondir sur ce que disait Sandra tout à l'heure au sujet de l'universalisme, et c'est vrai que c'est un sujet très important parce qu'en fait, on voit bien comment il travaille finalement chacun de nos débats et sert parfois de fin de non-recevoir à des interrogations pourtant légitimes. Et j'avais juste envie de dire que, en fait, il en va de l'universalisme comme de l'égalité, souvent dans nos débats. Je m'explique. Par exemple, vous allez trouver parfois des gens qui, prétextant du fait que nous vivons dans une société où tous les individus doivent être considérés à égalité, seront opposés à la discrimination positive, opposés à des coups de pouce, opposés à ce qu'on donne plus de moyens à des gens qui sont plus en difficulté, etc., en disant « mais ça suffit, on est des individus à égalité ». Mais ça, c'est une totale mécompréhension du principe d'égalité, qui, comme l'universalisme, est une aspiration vers laquelle on tend, en effet. Et je partage absolument ce que disait Sandra, c'est-à-dire que bien sûr qu'on voudrait tous atteindre l'égalité, on voudrait tous atteindre l'universalisme, mais pour y arriver, il faut bien commencer par constater qu'on n'y est pas. Et il faut bien constater par corriger ce qui fait défaut. Donc, je suis absolument d'accord. Et la meilleure illustration, en effet, pendant cette crise du Covid-19 et de la situation des femmes, c'est de prendre conscience, en effet, du fait que toutes les femmes ont été amenées à souffrir, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, et encore, on n'a pas parlé de tout, hein, on n'a pas encore parlé des violences, etc., on en parlera sans doute. Parmi les femmes, néanmoins, il y a des femmes encore plus vulnérables que d'autres, encore plus exposées à la pandémie compte tenu du cadre dans lequel elles vivent, encore plus fragilisées pécuniairement compte tenu de l'activité qui est la leur, qui est temps partiel et mi-été, etc., etc. Et souvent, en effet, force est de constater que parmi les femmes qui ont ce type de conditions de vie et de travail dans les métiers du CAIR, bah vous avez énormément de femmes qui sont des femmes étrangères, qui viennent d'ailleurs, et comme l'a dit Sandra, d'ailleurs ça pose au niveau géopolitique une autre question qui est d'une certaine façon la fuite des pays pauvres vers les pays riches de bras éminemment précieux justement dans ces fonctions du CAIR. Il y a des pays, je pense aux Philippines par exemple, qui déplorent de perdre vraiment un nombre d'infirmières considérable qu'ils ne trouvent pas au moment où éclatent des crises. Alors, il ne s'agit pas, comprenez bien mon propos, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait les empêcher de partir de leur pays si elles veulent partir de leur pays. Mais je dis simplement que c'est un sujet qui est souvent un angle mort des débats publics et voilà, des politiques publiques, que de réfléchir à l'angle à la fois global et dans la dimension locale à l'échelle de notre pays, au sort de ces femmes auquel, en effet, nous, femmes des pays riches, on a quand même délégué ce qui permet notre autonomie, c'est-à-dire la charge domestique qu'on leur refile. Certaines, d'ailleurs, parmi nous, de femmes des pays riches, finissent par s'auto-convaincre que, en réalité, on n'a plus de problème d'égalité femmes-hommes dans ce pays, puisque, regardez, on est autonome, on n'est plus bloqué par ces charges domestiques, etc. Sans se rendre compte qu'en fait, ces charges domestiques, on s'en est débarrassé non pas en les répartissant mieux avec les hommes dans notre foyer, mais en les déléguant à d'autres femmes plus vulnérables, plus fragiles, et qui ont encore moins voix au chapitre. Parce que finalement, dans notre livre, ce dont il est beaucoup question, c'est quand même de qui a voix au chapitre. D'ailleurs, on fait référence au livre de Carole Gilligan, Une voix différente. Donc, si on veut une éthique du care, une démocratie qui fonctionne, il faut que toutes les voix différentes puissent s'exprimer, et notamment celles des femmes qui sont si absentes. Eh bien, qui a voix au chapitre aujourd'hui, si on reprend ces femmes très, très précaires que j'évoque, souvent d'origine étrangère, etc., femmes de ménage, gardes malades, elles ont encore moins voix au chapitre que nous autres. Et c'est pour cela que les problématiques qui sont les leurs, par exemple l'usage de produits toxiques quand on est femme de ménage, et qui est aujourd'hui totalement avéré, beaucoup, beaucoup de produits posent des problèmes de santé, c'est quasiment jamais au cœur du débat public, puisqu'elles ne le portent pas dans le débat public, parce qu'on leur laisse pas franchement exposer leur vie. Mais même des choses qui peuvent paraître moins graves, mais qui sont tout aussi contraignantes dans la vie, toutes ces femmes qui, je sais pas, du fait de leur métier, vont avoir 3-4 clients dans la journée et qui vont devoir aller d'un domicile à un autre en utilisant des transports souvent extrêmement longs, dont le temps de transport n'est pas comptabilisé dans la rémunération valorisée, qui n'ont même pas le temps de déjeuner dans la journée. Enfin, voilà, tous ces temps émiettés que j'évoquais tout à l'heure. C'est des choses qui ne sont pas dans le débat public. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un de très volontariste pour les amener, mais sinon, le reste du temps, on les néglige, on les oublie. Et en fait, c'est comme ça que, soudain, on se met à découvrir les corps de ces femmes, comme vous disiez, Lorraine, un peu comme au moment de la crise des Gilets jaunes. Soudain, on a redécouvert les corps des Gilets jaunes, c'est-à-dire d'ouvriers, etc., qu'on ne voyait jamais à la télévision, et on s'est dit « Ah mais oui, au fait, la France est faite aussi de ça ». Mais c'est insupportable. Ça dit bien qu'on a un problème si on n'est pas capable d'assurer une visibilité médiatique, politique, décisionnelle à tout un pan de notre société.
Si je peux juste ajouter quelque chose à ça, puisqu'on parlait de leçons, d'un autre côté un peu pédago, en fait, Najat et moi, c'est vrai que c'est donc des leçons féministes, mais je pense que dans ce livre, il y a aussi vraiment une leçon d'intersectionnalité, j'emploie le mot, même si, parce que justement, c'est un mot qui est souvent, voilà, très, très, très contesté en ce moment, donc si on revendique l'intersectionnalité, c'est comme si on était, voilà, on est à deux pas de soutenir le terrorisme, donc je dois dire que notre livre, même si on, voilà, c'est pas central, mais on veut absolument en profiter pour vraiment réhabiliter ce concept, parce que là aussi, c'est pas de l'idéologie, c'est la réalité, ces femmes dont on parle, qui ont assuré toutes ces tâches, et bien elles sont effectivement à la fois, donc c'est des femmes, elles sont racisées, elles sont pauvres. C'est ça l'intersexualité, c'est juste cette réalité-là. Et de fait, on a aussi vu que toutes les révoltes suite à l'assassinat de George Floyd, c'était aussi en plein Covid. Hein. Bien sûr, c'est un homme, mais il était aussi en train de chercher du travail suite à la crise économique. Il a aussi symbolisé en fait ce prix très lourd que payaient en fait vraiment les Afro-Américains aux États-Unis à la crise. Hein. Plus de 60% des morts du Covid parmi les soignants sont Afro-Américains. Il y a eu vraiment l'idée qu'il y avait toute une partie des gens qui étaient expendables, hein, comme on dit en anglais, qui étaient vraiment une espèce de chair à canon. Alors, je suis désolée, c'est le vocabulaire guerrier, mais pour une fois, il est justifié. Et donc, en France aussi, on sait que la mortalité par Covid a été deux fois plus élevée pour les personnes nées à l'étranger que nées en France. Et ça, c'est en fait des statistiques dont on ne parle pas suffisamment, alors que, évidemment, elles sont en réalité des éléments vraiment qui décrivent la situation de l'intersectionnalité et le cumul, en fait, de ces vulnérabilités qui va en réalité faire que des personnes sont au service des autres, hein, comme on disait, mais aussi finalement expendables. Et ça m'amuse toujours quand on les appelle travailleurs essentiels, parce que c'est un cas où finalement un mot veut dire, enfin ça arrive souvent hein, d'ailleurs, hein, c'est comme quand, comme quand on parle de sincérité ou de vérité, en tout cas, quand on dit qu'ils sont essentiels, c'est pour dire qu'ils ne le sont pas. Donc, comme philosophe du langage, ça m'a beaucoup intéressée, vous l'imaginez.
Moi, j'avais une référence que je voulais mentionner ici. C'est un livre qui s'appelle « Qui gardera nos enfants ?» de Caroline Ibose, qui est sorti en 2012 et qui avait vraiment été un vrai déclic pour moi, parce qu'il est très important, parce qu'en fait, il permet de comprendre aussi que cette espèce de féminisme qui pousse les femmes, en particulier les femmes issues des classes bourgeoises, des femmes diplômées, à percer le plafond de verre, à monter les échelons, le fameux « de Sheryl Sandberg, il se fait aussi au prix de la vie de femmes souvent venues de l'hémisphère sud qui vont venir s'occuper de leurs enfants et nettoyer leur maison pendant qu'elles rentrent tard le soir de réunion. Ça, c'est vraiment important, je trouve, de le comprendre.
Et souvent en laissant leurs propres enfants au pays.
Et en plus, bien souvent, tout à fait. Ouais, leurs propres enfants sont restés là-bas. Il y avait aussi une autre référence qui me venait à l'esprit. Je voulais vous la soumettre d'ailleurs, Sandra Logier, Judith Butler. En fait, qui ne se revendique pas directement du care, mais que j'ai pas mal lu récemment. Elle parle de « grievable lives ». Donc, on le traduit en français par des vies pleurables, ce qui n'est pas tout à fait, je trouve... Enfin, ça ne colle pas tout à fait à « grievable ». C'est un peu cette idée qu'il y a des vies qui méritent le deuil. Il y a des vies qu'on va pleurer et des vies qu'on considère pas dignes de deuil. Et elle parle notamment des vies des migrants qui s'abîment dans la mer Méditerranée sans même qu'on leur donne de nom ou de sépulture. Et je trouve que ça rejoint beaucoup la pensée du Caire. Et je voulais enchaîner sur l'écologie, parce que finalement, vous avez toutes les deux bien démontré à quel point, quand on commence à réfléchir sur le care, on réfléchit de manière globale. Et moi, je trouve qu'il y a des évocations de l'écoféminisme dans votre réflexion. Est-ce que c'est une pensée dont vous vous sentez proche, toutes les deux ?
Ce qui est insupportable avec l'écologie, un peu comme avec tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que ça fait des années, des décennies qu'on sait que les premières victimes des grandes catastrophes écologiques, précisément, ce sont les femmes. Et franchement, ça, il y a quelques rappels à avoir pour en prendre conscience. Quand vous prenez, par exemple, le tsunami qui a eu lieu en Indonésie, je crois que c'était en 2004, les trois quarts des victimes étaient des femmes. Quand vous prenez l'ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans un an plus tard, en 2005, l'essentiel des victimes, c'était des femmes et des femmes afro-africaines et afro-américaines, pardon, et leurs enfants. Et puis vous en avez plein d'autres d'exemples comme ça. Ah si, il y a aussi le cyclone, le gros cyclone au Bangladesh au début des années 90. Là, c'était genre 5 fois plus de femmes ont été tuées parmi les victimes. Bon. Et en fait, si vous voulez, quand vous prenez des exemples comme ça, d'abord, il faut s'intéresser au pourquoi. Et en fait, c'est assez évident. Pourquoi il y a plus de victimes femmes ? Parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants, des personnes âgées, donc qui sont retenues auprès de ces personnes encore plus vulnérables au moment où il faudrait prendre des dispositions ou fuir. Ce sont elles qui sont empêtrées dans des habits incommodes. Ce sont elles à qui on n'a pas appris à nager ou à monter aux arbres quand il faudrait essayer de se sauver. Bon, donc je disais, ce qui est vraiment très compliqué avec cette question climatique et écologique, c'est que, un, on sait que les premières victimes sont des femmes. Deux, quand on s'intéresse un peu à qui, à l'échelle de la Terre, fait le plus pour préserver l'environnement, précisément, on se rend compte que ce sont les femmes. Donc, elles sont victimes et pourtant, ce sont elles qui pourraient être des solutions. Et alors ça vaut partout. Hein. Ça vaut dans les pays les plus en développement, dans le rapport à la terre, etc. Mais ça vaut y compris dans nos pays plus riches, dans lesquels, quand vous interrogez les hommes et les femmes sur leur habilité à consommer durable, à recycler, etc., etc., vous vous rendez compte que les femmes sont beaucoup plus sensibles que ne le sont les hommes aujourd'hui sur ces questions-là et qu'elles font déjà plus. Donc, première victime, actrice du changement, et pourtant, et on en vient toujours au même constat, et pourtant, ce ne sont pas elles qu'on entend. Alors, vous allez me dire, mais ces dernières années, on a beaucoup entendu Greta Thunberg, etc. C'est vrai, il y a peut-être en effet un petit déclic qui est en train de se faire du côté des jeunes, très jeunes femmes. Et il n'en reste pas moins que force est de constater que les femmes qui sont dans ce rapport très quotidien à la nature, à l'environnement, etc., on ne les entend pas. La vérité, c'est que quand on parle d'environnement, c'est encore trop souvent un discours sur la biodiversité, les grands espaces naturels, etc., qui est essentiellement un discours masculin et qui ne tient pas compte justement de cet écoféminisme, c'est-à-dire de ce rapport, de cette façon de faire écologie de façon très modeste dans le rapport à l'environnement. Donc, pour terminer mon propos, c'est sûr qu'on ne sait pas si on va encore connaître d'autres pandémies. On croise les doigts pour que ce ne soit plus le cas, mais rien ne nous en préservera si facilement. En revanche, ce dont on est absolument sûr, c'est qu'on va connaître des dégradations environnementales liées au changement climatique et de toute nature, inondations, canicules, tsunamis, etc. On va en connaître. Donc, est-ce que, une fois qu'on a fait ce constat du fait que les femmes sont les premières victimes, qu'elles auraient un rôle à jouer, est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce qu'on reste comme on est aujourd'hui? Et donc, je pense que l'écoféminisme, en fait, ça aide à changer déjà la perception des choses et puis ensuite à conclure qu'il faut que des femmes soient décisionnaires, évidemment, dans tous ces pays sur ces questions.
C'était effectivement une question que je gardais pour la fin, mais on est presque à la fin. Est-ce qu'une bonne façon d'accéder à une véritable éthique du care dans les États, ce serait d'avoir plus de femmes en politique?
Juste un mot encore sur l'environnement, hein, parce que je trouve que c'est vraiment central et on en parle dans le livre, puisqu'il y a aussi cette façon, en fait, dans l'utilisation de l'environnement, de tenir pour acquis et de considérer que les ressources de la Terre, ben, elles sont là à disposition, hein, des pays riches. C'est vraiment la même attitude, en fait, qu'on dénonce avec l'éthique du care, hein, l'idée que finalement, voilà, il y a des gens qui sont des gens ou des choses qui sont à disposition. Et donc, ça rejoint vraiment notamment tout le mouvement en ce moment contre l'extractivisme, hein, donc avec cette idée que voilà, on va extraire toutes ces ressources. Et je crois que c'est vraiment une attitude morale, en fait, qui nous intéresse, hein, voilà, qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, hein, dans cette distinction. Alors justement, ce qui nous avait énervé aussi pendant le confinement, c'était quand on disait « on voit des animaux, c'est formidable, la nature reprend ses droits ». Enfin, il y avait toujours un petit reportage là-dessus, comme si la nature, c'était cela, alors que justement, ben, l'environnement, c'est vraiment cette action ordinaire, quotidienne. Et donc, bien entendu, ça c'est aussi une question politique, hein, puisque l'attention à l'environnement, donc en tant qu'activité ordinaire quotidienne, n'est pas uniquement… Voilà, espèce d'écologisme par hélicoptère, hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Après, bien sûr, hein, pour ce qui est des femmes politiques, la question pour nous dans le livre, c'était vraiment la question de la démocratie aussi. Pourquoi les femmes n'ont pas eu la parole dans ce confinement et encore maintenant, hein, en réalité, les personnes les plus concernées donc n'ont pas eu du tout la parole et n'ont pas été considérées comme compétentes, parce que c'est la compétence, en fait, liée à toutes ces activités, hein, qui est pour nous centrale. Et donc, bien entendu, c'est très important, en fait, d'avoir un changement politique, mais qui ne peut être engagé que par des femmes qui, non seulement sont des femmes, on sait que ça ne suffit pas, mais sont en réalité féministe. Et là-dessus, je pense que Najat a beaucoup de choses à dire aussi. Je lui laisse la parole.
Je ne sais pas si j'aurais plus de choses à dire que toi. En fait, j'ai envie de te répondre. Pardon, du coup, je me mets à tutoyer Lorraine. Mais tu donnes envie qu'on te tutoie, Lorraine. Donc, j'ai envie de te répondre. Ouais, là, franchement, il est grand temps qu'une femme arrive au pouvoir et une femme si porteuse de l'éthique du care. Donc, parce qu'en fait, ce qui est absolument dingue, c'est que pour reprendre cette opposition entre rhétorique guerrière et puis éthique du care, c'est que ces dernières années dans nos pays, je dis nos pays, c'est pas que la France, hein, dans nos pays, s'est installé un mode de débat public très guerrier, justement, qui fait que, en fait, beaucoup de femmes en étaient exclues parce que beaucoup de femmes sont juste pas comme ça et que les seules femmes qui, finalement, se hissaient à la hauteur de ce débat public très polarisant, très, voilà, noir ou blanc, etc., c'est des femmes qui acceptaient finalement d'endosser ce caractère un peu guerrier et qui d'ailleurs en payent le prix, hein, pour celles qui sont bien intentionnées, on va dire, les combattantes, enfin, je veux dire, on en a toutes des exemples en tête, elles en payent le prix parce qu'elles sont carrément harcelées sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est, tout ça est d'une violence considérable. Puis après, vous avez d'autres femmes, Marine Le Pen, etc., à qui la rhétorique guerrière va bien parce que ça correspond de fait à ce qu'elle défend. Bon, donc du coup, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que cette rhétorique guerrière soit remplacée par autre chose, par cette éthique du care. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est plutôt des femmes qui la portent. Donc, on a besoin de cette voix-là dans la responsabilité politique, évidemment. Donc, si tu me demandes mon avis à moi, je pense que ce qui nous ferait le plus grand bien dans ce pays, c'est d'avoir une présidente femme la prochaine fois. Mais dès la prochaine fois.
Pas celle-là, si possible.
Voilà, tu l'as compris.
Voilà, malheureusement, ouais. J'ai encore tellement de questions à vous poser, mais je pense qu'il faut qu'on parle maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'on a peut-être, je crois qu'on est nombreuses et nombreux à avoir eu le sentiment, d'ailleurs vous le décrivez très bien, cette espèce de sentiment qu'on a eu pendant le premier confinement, genre bah là ça saute aux yeux. Enfin, là on voit bien qu'il faut mieux payer les infirmières, enfin, là on voit bien qu'il faut du service public fort, on voit bien qu'il faut soutenir les personnes pauvres et les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes vulnérables. On voit bien que tout va changer. Et en fait, non. C'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que non seulement rien n'a changé, mais je trouve que l'espèce de rhétorique guerrière, le « nous sommes en guerre » qui a été lancé mi-mars par Emmanuel Macron, résonne à nous en donner mal à la tête, et qu'aujourd'hui, chaque annonce gouvernementale est une annonce de répression, de surveillance, de sanctions, de fermeture, d'interdiction. Enfin, on est vraiment dans un espèce d'état qui, moi, je n'ai pas peur d'employer le mot totalitaire, et j'emploie même parfois un mot un peu plus violent que je ne veux pas... Pas aux oreilles aujourd'hui. Quel regard vous portez sur l'action gouvernementale aujourd'hui, la façon dont en fait on est en train de réagir à cette crise mondiale qu'on se prend dans la figure en France aujourd'hui?
Alors, on va essayer quand même d'être très modéré, hein, puisque malgré tout, même si on a envie de parler en effet de totalitarisme par moment, bon, ben, on est là, on peut parler de ça. Voilà, on a encore des lieux d'expression, donc peut-être qu'on n'est pas encore au fascisme, mais c'est clair qu'il y a vraiment une dérive autoritaire. C'est vrai que, bon, j'ai jamais été fan du président actuel, mais c'est vrai que quand il est arrivé, on se disait, comme c'est le mec super libéral, peut-être que même s'il est libéral au plan économique, on aura peut-être l'avantage d'avoir une espèce de progressisme dans les idées. Et là, ben, on voit que c'est absolument tout le contraire. Hein. C'est ça que je trouve vraiment effrayant. Et ce qui est évidemment, pour moi, en tant qu'universitaire, hein, aussi, le plus inquiétant, c'est cette volonté. Alors, il y a beaucoup de signes hein, très, très inquiétants, et on pourrait parler des lois qui vont évidemment restreindre toutes sortes de libertés. Mais s'il faut choisir, je suis évidemment inquiète de cette volonté de contrôler les contenus de ce qui va être enseigné à l'université, d'interdire aux étudiants de se réunir, ce qui est vraiment très contraire en fait à toutes sortes de traditions hein, de liberté académique, et également d'ailleurs toute cette répression dont on parle moins, ben, justement des recherches, des études sur le genre, hein, qui est quand même quelque chose qui existait déjà au Brésil hein, de façon massive, pas mal aux États-Unis, hein, Trump évidemment anti-féministe mais aussi anti-genre, et puis bien sûr aussi en Hongrie, mais là on sent, enfin moi ça m'inquiète beaucoup, et c'est vrai que je pense que quand on pense à tout le travail qu'a accompli Najat dans cette direction aussi, je crois qu'il y a vraiment de la part de certaines autorités ministérielles dans ce pays, une volonté extrêmement répressive par rapport à la recherche sur le genre, l'intersectionnalité, mais aussi tout simplement la pensée critique. Et je ne le dis pas juste pour me plaindre de cela, c'est aussi parce que c'est le début de la fin en fait en général. Hein. C'est très inquiétant quand on attaque la critique intellectuelle, la culture, hein, qu'on s'en prend à ces personnes, parce que c'est vraiment une façon de fragiliser la société qui a déjà été extrêmement fragilisée dans son tissu social et dans ses institutions de care, justement, les hôpitaux, l'école, les associations. Et donc, il y a une fragilisation. Mais quand on commence, en fait, à s'en prendre aux intellectuels comme s'ils étaient dangereux, je pense que là, on est, en fait, sur une très, très mauvaise pente. Et je ne pense pas seulement à ce qui se passe maintenant, mais bien sûr, vraiment, je pense au XXe siècle. Hein, donc oui, je suis assez négative là-dessus.
Oui, non, mais je ne sais pas si mon propos te surprendra, mais moi, je trouve que ce gouvernement, honnêtement, sur ces questions de liberté publique, a un atavisme de droite, quoi. Et qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'on avait cru qu'on allait pouvoir se rejoindre quand même sur des grands principes républicains avec lui, etc. Et en fait, on a été surpris, honnêtement, par la facilité avec laquelle il a épousé des thèses qui sont... Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, Lorraine, que quand tu demandes ça, tu as en tête les sujets d'actualité, l'article 24 de la loi sécurité globale, des choses comme ça. Mais en fait, il faut se souvenir que même avant le Covid, il y avait quand même un certain nombre de signaux d'alarme qu'il fallait prendre au sérieux. Et moi, ça fait très longtemps que je suis inquiète du rapport de ce gouvernement aux libertés publiques. J'en veux pour exemple. Alors, parfois, ça passait par des textes, parfois, ça passait par des paroles, parce que les paroles des ministres comptent aussi. Et ce qu'avait évoqué Sandra avec la parole de Jean-Michel Blanquer contre les universitaires intersectionnalistes, c'est très grave, même si c'est pas une loi en tant que telle. C'est extraordinairement grave ce que ça installe dans l'espace public comme idée qu'il faudrait aller censurer, trier ce que disent les universitaires et puis qu'ils auraient une responsabilité dans le terrorisme carrément. Mais même avant cette anecdote-là, souvenez-vous des paroles qui étaient tenues par certains ministres consistant à dire que les associations humanitaires qui aidaient les migrants en mer Méditerranée, en fait, elles se faisaient les complices des passeurs. Moi, ce propos m'avait choqué à un point considérable, mais il avait été tenu et répété, il n'avait pas été tenu qu'une fois. Après, il y avait eu aussi un certain nombre de faits et d'actes que j'avais recensés parce que moi, en janvier 2020, j'avais organisé une soirée consacrée justement à la défense des libertés publiques. Et donc, j'avais recensé avec un certain nombre d'intervenants, avocats, défenseurs des libertés publiques qui intervenaient ce soir-là, tout ce qui n'allait pas. Et je me souviens qu'on avait listé, par exemple, la mise en cause de la liberté d'informer, et notamment en portant atteinte au secret des sources. Enfin, il y a quand même eu plusieurs journalistes qui se sont vus convoqués pendant ce quinquennat pour rendre des comptes sur ce qu'ils ont écrit. Voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été encore plus aggravées, évidemment, avec la loi sécurité globale dont on a beaucoup parlé. Mais honnêtement, je pense que aujourd'hui, la conscience est assez générale de ce que il y a un problème d'autoritarisme, de rapport aux libertés publiques qui va finir, y compris, on le voit dans la réputation de la France à l'étranger, hein, par laisser des traces. Et puis surtout par instaurer chez les citoyens une défiance à l'égard de toutes les décisions prises. Je me suis un peu perdue, mais ce à quoi je pensais aussi, c'est évidemment la façon dont les manifestations au moment des Gilets jaunes et puis d'autres ont été réprimées. Enfin, il y a eu quand même des comportements, avant même de parler des violences policières dont on parle beaucoup en ce moment, qui proviennent du sommet, de la hiérarchie, qui sont des instructions clairement données et qui sont considérablement problématique. Donc voilà, donc je pense en effet qu'on a un sujet liberté publique et que c'est particulièrement grave, par exemple, de profiter de ce second confinement pour faire passer une loi aussi problématique que la loi sécurité globale, alors que les gens sont quand même assez impuissants pour pouvoir y faire face.
Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a énormément de propositions concrètes dans votre livre, notamment cette phrase que je trouve très juste, un État qui fonctionne, c'est un État qui organise les solidarités. Je trouve que cette phrase, elle résume vraiment bien toutes les idées que vous portez. Mais là, on serait quand même un peu tenté de baisser les bras, sans parler de l'État de la gauche en France. Un petit peu déprimant. Est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir quand même des choses que vous observez, des contre-pouvoirs qui s'installent, des solidarités qui se tissent peut-être au niveau local? Qu'est-ce que vous suggérez pour résister à ces forces guerrières?
Je crois que ce dont on parle dans le livre aussi, c'est justement les ressources de la société. C'est vrai que pendant le confinement, on s'est aperçu, d'une part, de tout ce rôle de toutes ces personnes qui aidaient les autres à vivre, mais aussi des capacités d'organisation. Par exemple, qu'il y avait dans des quartiers qui étaient considérés, là aussi, par le gouvernement comme des zones absolument de désobéissance, de non-droit, et qui, en réalité, ont heureusement, grâce aux associations qui avaient été sous-financées, déstabilisées déjà depuis plusieurs années, ont réussi à s'organiser, mais beaucoup mieux que le gouvernement a organisé quoi que ce soit, en fait. Hein. Donc, il y a des ressources dans la société, il y a des ressources chez les femmes, hein. C'est simplement qu'il faut, en effet, leur donner plus de place. Il y a des compétences chez les citoyens, et c'est cela, en fait. Nous, bien sûr, on mise là-dessus, puisque c'est vraiment, comme on le disait, une question de démocratie aussi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de femmes en position de responsabilité pour utiliser cette capacité organisationnelle. Et donc, je crois que là, il y a vraiment un potentiel, mais qui n'est absolument pas là où on le croit. Là où on le croit habituellement. Donc, il y a aussi, par exemple, on le voit pour la demande de participation citoyenne. Hein, on a eu cet incident grotesque là avec le président qui avait lancé une consultation participative et qui tout d'un coup dit que finalement il va prendre que ce qui lui plaît à lui. Mais ça traduit quand même vraiment une grande aspiration à un partage du pouvoir, hein, à ce que les citoyens montrent leur expertise. Et c'est ça aussi qui nous paraît très important. Hein. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est... Enfin, pourquoi le gouvernement actuel est aussi extrêmement, extrêmement en retard, extrêmement en retrait, puisqu'il n'a pas du tout été capable, en fait, de prendre en compte cette volonté-là. Donc, il y a évidemment énormément de pistes pour une vie plus démocratique. Mais c'est vrai qu'on est tout à fait loin de leur mise en œuvre. Et je crois que ce qui est vraiment important maintenant, c'est d'arriver à reconnaître en fait la compétence, la contribution des femmes, hein, mais aussi des personnes pauvres, défavorisées. En fait, il y a vraiment à réfléchir sur une démocratie qui finalement est dans le déni de toute cette expertise informelle.
Il y a ce qu'on doit réclamer de l'État. Des pouvoirs publics, même si l'État et les pouvoirs publics ne sont pas encore composés idéalement comme on souhaiterait qu'ils soient composés, il n'en reste pas moins qu'il faut réclamer des choses d'eux. Et par exemple, typiquement, c'est pas possible que le plan de relance qui a été adopté par le gouvernement ne dise pas un mot des femmes, pour le coup. Enfin, je veux dire, je vous renvoie aux travaux du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui sont très bons sur le sujet et qui ont une revendication simple, c'est ce qu'on appelle l'EGA conditionnalité, c'est-à-dire dès lors que l'État procure aux banques des prêts garantis par l'État, la moindre des choses, c'est de veiller à ce que les banques les distribuent de façon juste entre les femmes et les hommes. Or, on sait qu'il y a un problème d'accès au crédit dans ce pays pour les femmes qui est extraordinairement important. Lorsque l'État décide d'aider des secteurs d'activité et que, mû par un réflexe qui lui fait faire ce qu'il a toujours fait par le passé, comme en 2008, au moment de la crise financière, le premier secteur qu'il va aider, c'est le secteur automobile, aéronautique, des bâtiments, des travaux, alors qu'en fait, c'est pas ces secteurs-là qui sont le plus affectés aujourd'hui par cette crise, c'est ceux des commerces, de la restauration, de l'hôtellerie qui, dommage, sont essentiellement occupés par des femmes. Il faut vraiment réclamer de l'État qu'il ait une dimension genre dans sa réflexion sur tous les plans qu'il adopte et que ce soit un systématique. Donc, c'est ce qu'on peut réclamer de lui. Et pour ce faire, pour arriver à ça, évidemment, l'autre chose à réclamer, c'est que partout, il y ait de la donnée sur le genre. On manque de données. Enfin, c'est insupportable, Sandra et moi, quand on a écrit notre livre, vraiment pour trouver des chiffres, pour venir illustrer des réalités empiriques qu'on constatait partout autour de nous, mais c'était d'une telle complexité et encore aujourd'hui, donc on a besoin de données. Et enfin, ça c'est ce qu'on peut réclamer du gouvernement et des autorités, et ensuite il y a ce dont est faite la société aujourd'hui. Et la société, honnêtement, comme souvent en fait, elle vaut quand même mieux que les pouvoirs qui accaparent les marges de manœuvre. La vérité, c'est que dans la société, quand vous regardez du côté des associations par exemple, vous avez énormément de femmes qui qui s'impliquent, qui ont le courage de le faire, même dans les moments les plus difficiles. Et je pense que cette société-là, en fait, il faut d'une certaine façon la valoriser. C'est pour ça que j'aime bien votre podcast, parce que en fait, vous recevez souvent des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas valorisés spontanément, médiatiquement. Il faut lui donner la parole. Et que c'est aussi comme ça qu'on change les perceptions et qu'on change finalement qui dit ce qui doit être nos priorités, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance vers cette éthique féministe du care.
Merci pour cet hommage, il me touche beaucoup et c'est complètement ma démarche. Il y a une question que j'ai vue émerger qui répond bien d'ailleurs à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un décalage énorme entre la société que moi j'observe et vous devez l'observer aussi, qui est de plus en plus féministe. Enfin, je pense que vraiment, en l'espace de 3 ou 4 ans, le pourcentage de femmes qui s'est intéressée aux théories féministes et qui s'est emparée de ce terme a certainement décuplé. Pourtant, les questions féministes, les féministes elles-mêmes sont complètement ignorées par les instances gouvernementales. Est-ce que les forces féministes sont en train de s'organiser pour peser sur l'échiquier politique, pour renverser la table? Est-ce que vous avez connaissance de quelque chose qui serait en train de se produire pour que nos idées portent enfin?
Alors, pas en tant que telle à ma connaissance, mais je trouve que c'est une super idée. Non, franchement, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu de tentative dans le passé. Hein. Il y a eu des tentatives, par exemple, de listes totalement féminines et féministes. Je me souviens des élections européennes de 2000... C'était quoi? C'était 2014, par exemple, où il y avait une liste comme ça qui avait été portée. Mais ici, en France, à l'échelle nationale, pour une grande élection, franchement, ça ne s'est pas encore fait, mais là, on a des fourmis dans les jambes.
On n'est pas le meilleur pays pour la solidarité féminine, en fait. Hein, c'est assez curieux, mais de fait... et d'ailleurs, beaucoup de femmes qui sont des figures importantes et qui se prétendent d'ailleurs parfois féministes sont absolument pas solidaires en fait des autres femmes. Donc, je crois que là, il y a vraiment aussi une forme d'éducation collective à avoir. En fait, je voulais aussi répondre à une autre question qui nous a été posée parce que ça me titille, bien entendu. Je crois qu'il faut vraiment pas que donc les personnes qui nous écoutent croient qu'on est là pour culpabiliser les femmes qui embauchent d'autres femmes, qui ont des femmes de ménage, etc. C'est absolument pas le propos. C'est vrai qu'on a voulu vraiment faire prendre conscience en fait de ces inégalités. Donc, comme si on disait dès qu'on parle d'inégalité, on est en train de culpabiliser les gens. Hein. C'est pas du tout cela l'idée. Bien sûr que les femmes ne sont pas les seules responsables de cette situation d'exploitation d'autres femmes et que c'est en général une famille qui avec un homme qui embauche des personnes. Simplement, on sait d'ailleurs que ce qu'on appelle la charge mentale du recrutement, de payer aussi les employés, c'est toujours pour les femmes. Hein. Donc, dans ce système-là, qui est un système d'exploitation, en effet, par une famille, déjà, la femme est de toute façon dans ce rôle, qui est toujours dans une sorte de mauvais rôle, mais évidemment, ça ne fait pas du tout disparaître. C'est parce qu'on est dans une structure patriarcale où l'homme, en général, où les hommes n'assurent pas à ces tâches qu'on doit avoir ce système-là. Vous savez que je travaille sur les séries télévisées, donc c'est vraiment comme dans The Handmaid's Tale. Hein, bien sûr que les femmes vont exploiter d'autres femmes, hein, y compris pour la maison ou pour la reproduction, mais ce qui est en haut du système, c'est des hommes. Hein.
On va pas tarder à se séparer. Je vais vous poser à chacune la question que je pose traditionnellement à mes invités. Ce sera la deuxième fois pour vous, Najat, du coup. Sandra Logier, si je vous dis la poudre, ça vous évoque quoi?
Écoutez, j'adore parce que, évidemment, il y a le côté, évidemment, glamour, mais le côté explosif aussi, en fait. Hein, donc, j'aime bien. Si c'est une analyse du mot, bien sûr, hein, je trouve ça absolument, absolument passionnant. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'on a, en réalité, hein, comme le disait Najat, on a vraiment très peu de lieux qui soient réellement féministes. Hein. C'est vrai que là, on est entre nous, on a l'impression que c'est évident, mais c'est hyper protégé. Dès qu'on est dans un environnement où on s'exprime, que ce soit sur Internet, à la radio, il y a toujours, en fait, normalement, une forte hostilité au féminisme. Hein, le féminisme est toujours vu comme une mauvaise chose, quelque chose qu'il faut absolument défendre. Et donc, un cadre Donc, où on peut vraiment voilà, être féministe sans honte, pour moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça nécessite en effet de faire parler toute la diversité des femmes. Hein. Donc voilà, et c'est vrai que pour le cas, parce qu'il y avait une question en marge qui disait, est-ce que j'ai des divergences avec des chercheuses comme Fabienne Brugère, Patricia Parperman? Mais non, on travaille sur le cas. C'est vrai que c'est un domaine où en fait, il y a une très grande... solidarité, une complémentarité surtout. C'est-à-dire que en fait, les recherches qu'une femme peut y arriver toute seule, c'est toujours en travaillant avec d'autres. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été une telle joie pour moi de travailler avec Najat. Hein, en fait. C'est vrai qu'il y a cette complémentarité, il y a vraiment ce travail, cette recherche aussi, une recherche intellectuelle commune. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, malgré tout, voilà, et pas forcément faisable autrement qu'entre femmes. Hein. Je veux pas sombrer dans l'essentialisme comme on nous en accuse parfois, mais en réalité, ce type vraiment de coopération vraiment à égalité, c'est vraiment quelque chose qui est propre, hein, propre voilà, aux échanges entre femmes.
Je suis bien d'accord. Najat, vous avez une nouvelle interprétation à nous donner de la poudre.
Justement, en écoutant Sandra, je me demandais quelle avait été la réponse que j'avais faite il y a 3 ans maintenant, n'est-ce pas, Lorraine? Je devais être l'une des toutes premières intervenantes chez vous.
Et vous étiez encore ministre, hein. J'étais venue vous interviewer au ministère, j'étais très impressionnée à l'époque.
Et du coup, en fait, à l'époque, en fait, je ne connaissais pas encore bien votre podcast qui en était à ses débuts, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, je l'ai vraiment découverte ces dernières années. Et sincèrement, ce n'est pas du tout pour vous faire plaisir ou vous brosser dans le sens du poil, mais je trouve ça absolument unique, en fait, l'instrument que vous avez créé. Je le trouve de qualité, je le trouve engagé, je trouve qu'il permet de découvrir des gens formidables. Je trouve que vous-même, vous êtes totalement saisi du sujet, vous ne faites pas semblant, c'est impressionnant, ça fait beaucoup de bien. Donc, en fait, j'ai envie de vous répondre, ben, la poudre, ce serait... Allez, je vais prendre une image très féminine pour le coup, pour pousser dans l'essentialisme. Vous savez, la poudre qu'on se met sur le visage, c'est agréable avec ce gros pinceau, ces cocons, on se sent voilà, entouré, c'est chaleureux, c'est généreux. Donc, c'est comme ça que je vous vois maintenant.
Donc, pas le côté explosif. Moi, j'aime les deux.
Mais c'est les deux. En tout cas, vraiment, l'idée, ce n'est pas de susciter un tel hommage à mon podcast, mais ça me touche énormément. Et je trouve qu'en ces temps, ça fait du bien aussi de recevoir de la solidarité et de l'amour. Donc, merci. Et merci à toutes les deux. Merci pour votre travail. Merci pour ce livre qui est vraiment important. Ça se lit rapidement. Il n'est pas cher. C'est vraiment un tract. Hein. Il est fait pour être comme un tract. Donc, lisez-le, diffusez-le. Et merci à toutes les deux encore, Sandra et Najat.
Merci.
Bon, je vais préparer à manger pour mes enfants.
Prenez bien soin de vous, à bientôt.
Merci à Sandra Logier et Najat Vallaud-Belkacem d'être venues faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.